Elaine, this is my Aunt Stella.
Stella! Stella!
Bazinga, punk, now we're even.
You all right?
He's broken, the bone's coming
through. Give me your fucking money, you prick! Where's my fucking money?
So you had coffee.
Right.
Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur qui poursuit les criminels. Voici leur histoire.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie sur Mix FM, votre émission qui vous parle série télévisée, l'épisode 15 déjà, et je suis en compagnie d'Aurore évidemment. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Je vais très bien.
Bon, allez, tu le sais, c'est ton job là tout de suite de nous décrire un peu les news de la semaine.
Oui, on va commencer par un renouvellement déjà d'une série qui vient à peine de commencer, c'est Showtime qui a annoncé le renouvellement pour une deuxième saison de Penny Dreadful dont je vous avais parlé il y a 2 semaines je crois. Donc voilà, les critiques étaient bonnes et ils ont donc décidé de déjà la renouveler. On va continuer aussi dans les projets qui sont attendus pour la saison prochaine et cette fois-ci j'ai décidé de vous parler de deux projets qui sont apparemment très très attendus par tous les connaisseurs de séries pour le moment. Le premier c'est sur ABC, ça s'appelle American Crime et on y retrouve notamment une des Desperate Housewives, Felicity Huffman, et ça va nous parler d'un crime raciste et de ses conséquences, et on verra autant le point de vue de la famille victime que de la famille accusée pendant tout le procès, etc., toute la procédure. Donc cette série bénéficie pour le moment de pas mal de buzz positif. Dans un autre registre, quoique, nous avons du côté de la Fox Wayward Pines. Cette fois-ci, on en parle beaucoup, notamment parce que c'est un projet qui est porté par Night Shyamalan, qui commencerait donc également dans la série, avec dans son rôle principal Matt Dillon. Il s'agirait d'une mini-série dans laquelle on suivrait un agent fédéral qui enquêterait sur la disparition de 2 agents fédéraux dans une petite ville. Et la référence à Twin Peaks serait assez évidente, vu que cette ville paraîtrait de plus en plus étrange et de plus en plus difficile à quitter au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a sur ce qu'on en sait pour le moment. Donc voilà, ces deux projets sont très attendus. Reste à voir ce que ça donnera une fois qu'on aura vu les pilotes.
Très voilà. Bien, bon, ben voilà, un espoir de très bonnes choses en préparation.
Oui, exactement. Et je continue et je termine avec quelques pilotes que j'ai eu l'occasion de voir. Je vais commencer par une petite série qui a vraiment l'air de rien comme ça. Et pourtant, à chaque épisode, elle arrive quand même à me faire sourire, voire à me faire rire. Et c'est plutôt plaisant. Ça s'appelle Playing House et c'est diffusé sur USA. Et nous y retrouvons 2 copines, une qui est enceinte et qui va virer son mari qui la trompe par internet avec une Allemande. Enfin, c'est une scène assez drôle dans le pilote, et qui va emménager avec sa meilleure copine qui, elle, travaillait en Chine jusque-là, qui était une vraie working girl, et qui va tout abandonner pour revenir dans son village d'origine auprès de sa meilleure amie. Alors elles sont complètement barrées, ces 2 filles, et ça a l'air de rien. On a vraiment l'impression de se dire oui, bon, il y a pas d'histoire, ce sont juste deux filles qui font un peu n'importe quoi, et pourtant c'est très drôle. Donc
la formule fonctionne.
La formule fonctionne, reste à voir sur combien de temps ça fonctionnera, parce que en effet, il y a pas l'air d'y avoir vraiment beaucoup de concepts derrière tout ça ou d'intrigue, mais vraiment le duo marche marche bien et les personnages qu'ils mettent autour sont aussi plutôt drôles. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir, jeter un petit coup d'œil, peut-être ça vaut la peine. Une autre série dont on entend pas mal parler aussi, c'est une série anglaise cette fois-ci, ça s'appelle Happy Valley. Et on y retrouve une femme policière dans un petit village anglais comme la BBC nous a habitués d'en voir assez souvent dans ces séries. Alors il y a tout un mystère autour d'un kidnapping. La femme a elle aussi des histoires personnelles à résoudre, vu que elle a eu une fille qui s'est suicidée suite à un viol, et elle élève l'enfant qui est le fruit de ce viol. Enfin, c'est assez lourd, et pourtant c'est vraiment assez agréable à suivre comme série, très intéressant. Le pilote, au début, on comprend pas trop où ils veulent en venir, et l'histoire se met vraiment en place petit à petit, et plus on regarde et plus on a envie d'en savoir davantage. Donc voilà, quand on vous conseille une série anglaise, je crois qu'il y a rarement moyen de se tromper. Donc allez voir Happy Valley, ça vaut le coup également. Le dernier pilote dont je vais vous parler est un petit peu plus problématique pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est une série qui bénéficie pour le moment d'un gros buzz, qui apparemment est très très apprécié, et j'ai pas du tout aimé. Okay. Voilà, ça s'appelle Halt and Catch Fire, c'est sur AMC, et ça nous parle de deux, voire trois, puisque l'équipe va un petit peu s'étoffer, de spécialistes en informatique au tout début du PC. Donc ouais, on est début des années 80, et on suit ce petit groupe qui qui fait quoi? J'ai pas très bien compris. Alors peut-être que c'est parce que je m'y connais pas du tout en informatique,
hein,
mais
ça, oui.
Je me suis pas mal ennuyée. Alors la musique des années 80, hyper ringarde, enfin la vieille techno house pourrie, j'ai détesté ça.
Tu vas te
vraiment
faire beaucoup d'ennemis en disant ça.
Oui, je sais, je suis désolée, mais
vieille techno house pourrie, c'est une radio électro. Franchement, non.
Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas aimé la musique, j'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé l'histoire parce que ça m'intéresse pas. Et j'ai trouvé en plus que c'était très très poussif au niveau des stéréotypes.
Oui. Là, je suis d'accord avec toi. Bon, tu sais bien que le monde informatique, je le connais un petit peu.
Hein. Oui.
Donc, c'est une manière un peu trop romancée déjà à mon goût d'expliquer ce qui aurait pu se passer dans les années 80 dans le monde informatique. Et puis, c'est vrai, il y a des stéréotypes. La fille, elle a rien à faire là. Enfin, en gros, oui. C'est un peu trop,
oui,
mais bon, pour ceux qui comprennent un peu ce qu'il y a derrière ce projet ou ce qu'ils expliquent techniquement, de temps en temps c'est intéressant, mais c'est trop romancé, c'est trop, comment dire, édulcoré. Ça m'étonnerait très 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 fort que ce soit un reflet d'une réalité quelconque. Voilà.
Mais j'ai un petit peu l'impression que, comme maintenant, c'est-à-dire 30 ans plus tard, on voit ces gens-là comme étant des génies absolus, on essaie un peu de donner un effet un peu glamour et badass à des gens qui,
jour,
à l'époque,
en gros, bah oui, mais
étaient juste des boutonneux au fond d'une cave et dont personne n'en avait rien à faire.
Et là,
quoi,
de nouveau, tu vas te faire beaucoup d'ennemis. mais bon, voilà. On s'en est sortis, nous.
Ok,
les boutonneux.
Enfin, voilà. Bref, étant donné que je n'ai vu que le premier épisode, peut-être que ça va s'améliorer, parce que malgré tout, les pilotes sont pas toujours suffisamment révélateurs de ce que la série peut être dans son entier. Mais voilà, quoi, je suis pas convaincue, et il faudrait que j'en regarde davantage pour accrocher, parce que pour le moment, c'est pas gagné. Hein.
Eh bien, nous regarderons et on verra. À l'autopsie. Hein.
On verra l'autopsie, oui, exactement. Voilà, j'en ai fini pour cette semaine.
Très bien. Alors, la musique, c'est une tradition. On va passer à California Dreaming, chanté par
Showblades.
Oui.
Et ça a été entendu dans Californication.
Très bien.
les séries sont-elles du fast-food culturel ? Au même titre que Stephen King compare ses romans à du fast-food, donnant ainsi paradoxalement ses lettres de noblesse à une littérature de genre, revendiquant son caractère facile, abordable, rapide et parfois vulgaire, mais apportant au lecteur exactement l'évasion et le plaisir qu'il était venu chercher, peut-on affirmer que les séries sont à la culture ce que le fast-food est à la gastronomie ? Immédiatement consommable, sans prérequis ni effort particulier, disponible au bout de notre télécommande, parfois lourde et indigeste, la plupart du temps formatée, les séries sont en effet des objets de consommation produits à la chaîne pour conduire un maximum de public à regarder des publicités. Jouant parfois sur nos plus bas instincts, elles nous fournissent des frissons faciles et des bons sentiments interchangeables. Gavé par cette tambouille infâme, notre imaginaire se croit repu un temps, alors que rien de véritablement nutritif ne l'a plus renforcé depuis longtemps. Pourtant, le moins que l'on puisse leur reconnaître, c'est qu'elles n'ont rien de rapide. La moindre série prend beaucoup plus de temps qu'un film et souvent qu'un livre. Si elle n'exige pas toute une attention de tous les instants, elle requiert au minimum fidélité et investissement personnel. Elle s'ancre en nous et ne nous lâche plus avant longtemps. Simples et accessibles, elles ne le sont d'ailleurs pas toutes non plus. Certaines exigent réflexion, intelligence et références culturelles. Lentes et contemplatives ou bien orientées vers une communauté, certaines s'affirment et fondent leur succès sur leur caractère relativement confidentiel. Contrairement à la différence manifeste entre le fast-food et la gastronomie, on ne peut aujourd'hui continuer à penser la culture, et plus particulièrement la fiction, en fonction d'une distinction nette entre un bon cinéma ou une bonne littérature d'un côté et une mauvaise télévision de l'autre. L'offre est trop diversifiée pour encore utiliser ces catégories simplistes. Objet de consommation certes, les séries n'en sont pas moins un extraordinaire terrain de création.
Voilà, c'est très bien. Fast food versus série télé, c'est le débat qui débarque dans quelques instants. Juste derrière Ping avec Trouble, qu'on a entendu dans
Breaking Bad.
I'm not afraid to die.
Le débat de la semaine. Alors, peut-on comparer les séries télé à du fast-food culturel? Je ne pense pas que ce soit si simple que ça.
Mais dis donc, tu m'as bien écouté.
Non, pour une fois, je t'écoutais pas. Non, c'est faux, je t'écoute comme toujours. Donc, en effet, bah, au départ, on pourrait croire, et puis bah, on se rend bien compte que non, en fait. Mais on va argumenter un petit peu tout ça, parce que c'est plus fouillé que ma petite conclusion.
Ok, bon. Donc,
qu'est-ce qu'on pourrait en dire?
Ce que j'essaie d'en dire, c'est que... Oui, on peut dire quelque part que c'est un peu comme du fast-food parce que c'est souvent facile, c'est rapide, c'est formaté, enfin
oui,
c'est
oui,
tout ça n'est pas faux du tout.
On est bien d'accord, mais le fast-food, quand on parle du restaurant, bah c'est rarement classieux. Tandis que la série télé, elle est parfois très classieuse.
Parfois, il y a moyen, oui. En tout cas, il faut un petit peu lâcher l'espèce de vision qu'on pouvait avoir précédemment, qui était à la télévision, c'est forcément banal, formaté et un peu trop vulgaire pour véritablement être intéressant, tandis que dans d'autres espaces de création, là, c'est véritablement de l'art et on peut véritablement y trouver un intérêt. Je crois que les séries sont suffisamment multiples maintenant. Il y a suffisamment de supports en tout genre pour pouvoir dire que il y a énormément de créativité et énormément de possibilités de trouver des moyens de s'émerveiller de l'imaginaire des séries dans tous les sens, hein, que ce soit dans les séries de différents pays, parce qu'il n'y a pas que les séries américaines toujours, même si c'est vrai qu'elles gardent malgré tout la place prépondérante jusqu'à présent, mais ce sera pas forcément toujours le cas. Il y a eu un tel agrandissement de l'offre, notamment par la multiplication des chaînes, des réseaux, etc., que véritablement maintenant on a de tout et on...
Oui, mais c'est ce que j'ai envie d'appuyer. C'est maintenant. C'est un phénomène qui est assez récent, on va dire sur les 10 dernières années. Mais tout début des séries télé, on va dire dans les années 80, c'était du gros divertissement qui je sais pas, on portait à la pêche aux téléspectateurs. Maintenant, oui, on a un genre qui se dessine de plus en plus. C'est un format qui est même devenu à la mode, mais plus qu'à la mode, c'est un moyen d'expression pour beaucoup de producteurs et de réalisateurs aussi.
Oui, mais il y a une tendance qui se dessine et qui n'est pas uniquement celle des séries télé, qui est une tendance aussi à légitimer des supports culturels qui auparavant étaient considérés comme n'étant pas véritablement de l'art. C'est le cas aussi avec la bande dessinée, par exemple, et c'est le cas avec la série télé, mais on voit que tous les genres qui étaient auparavant un peu abandonnés commencent à trouver leur lettre de noblesse. Alors c'est vrai qu'on a toujours... On a toujours des gros trucs un peu dégueulasses qui peuvent nous arriver en série télé, comme en BD, comme ça peut être le cas pour les différents genres, comme la science-fiction ou l'épouvante ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais on constate aussi que parce que l'offre se diversifie, parce que aussi il y a davantage de moyens qui sont apportés à ces supports-là, on commence vraiment à avoir des choses de très grande qualité.
C'est ça, voilà.
Et on en avait peut-être aussi avant, hein, simplement, elles étaient beaucoup moins visibles parce que c'était pas du tout légitime à l'époque de dire oui, moi j'aime la BD ou moi j'aime le cinéma d'épouvante.
Il y en avait certainement de très bonnes séries qui auraient pu être classées dans cette catégorie, ça c'est certain, mais comme tu le dis ou comme tu l'expliques, c'était pas le format nécessairement choisi, ils n'avaient pas les mêmes moyens et donc il y en avait moins et donc dans le tas, par définition, il n'y avait pas grand-chose à retirer, enfin, rien d'exceptionnel. Moi, je vois les années 80 avec du gros divertissement, comme je le disais, vraiment lourdingue. Quand on les regarde maintenant, il n'y a pas grand-chose à en dire. Enfin, tu vois, on ne peut pas les mettre sur un piédestal réellement au niveau artistique.
Bah, le but n'est pas non plus de mettre les séries
non,
sur un piédestal.
D'accord, mais actuellement, je trouve que le boulot fourni, justement parce qu'il y a peut-être plus de moyens, plus aussi de moyens s'autoproduire ou de passer en dehors des grandes maisons et d'être diffusé peut-être sur le net, mais ils se donnent les moyens d'y arriver finalement. C'est beaucoup plus fouillé qu'on ne le pense. Enfin, j'ai l'impression, la qualité est là, est au rendez-vous beaucoup plus qu'avant. Avant, c'était répétitif, on voyait très fort que c'était fait en studio, c'était un discours assez lourd, même avec beaucoup de clichés, et malgré tout on voit apparaître des séries atypiques qui ont un message, qui ont une envie de donner une autre vision du monde, peut-être, je sais pas.
Oui, on peut dire ça, même si je crois pas qu'on puisse vraiment faire une ligne de démarcation entre avant et après.
Non, mais voilà, j'ai l'impression qu'on surfe quand même sur une vague du moment, et quand je dis le moment, pour moi c'est sur quelques années, hein, on va dire depuis le début des années 2000, on voit apparaître vraiment un grand choix de séries télévisées, et on a pu en revoir ensemble, même d'anciennes qu'on n'avait pas vues à l'époque et qui nous ont surprises. Voilà, et qui sont loin du divertissement que je garde dans mes souvenirs d'ado, quoi, voilà.
Oui. Mais ceci dit, il y a peut-être des perles auxquelles en tant qu'ado tu n'avais pas accès
non plus, ça c'est clair.
Il y a aussi une grande question de l'accès qu'on a maintenant grâce à Internet à des créations, on va appeler ça comme ça, qu'auparavant on n'imaginait même pas ça possible, quoi. Donc on s'abreuvait simplement de ce que les chaînes voulaient bien nous fournir. Et malheureusement, c'était pas toujours terrible.
Non, c'était pas le meilleur, c'est clair. Mais malgré tout, bah oui, on a la vision qu'on en a reçue des grandes chaînes européennes, on va dire. Mais je pense que aux États-Unis, il y avait malgré tout moins d'offres qu'actuellement.
Moins d'offres parce que moins de chaînes, hein. Ça me paraît assez mathématiquement évident.
Oui. Et il faut des moyens de diffusion pour pouvoir produire des choses, ou sinon ça ne sert pas à grand chose. On va pas les diffuser dans son garage, hein.
Ah, quoique, peut-être que.
De série télé.
J'imagine une série un petit peu Halt and Catch Fire, mais sur les créateurs des séries à l'époque, non?
Bah, oui, ça pourrait te passionner, toi.
Non, c'est vrai que j'essaie un peu de me moquer là. Excuse-moi.
Bon. Bah, voilà. Ça tombe un peu à plat, mais c'est pas grave. Ok, bah voilà, en gros, oui, non, les séries sont plus que du fast-food culturel, à mon avis.
Merci.
Allez, bon, alors, une petite pause.
Oui.
Ça te dit on va te laisser la présenter.
Alors, la petite pause, donc, ce sera Jenny Owen Youngs qui va chanter Fuck Was I, et ça a été entendu dans Weeds.
Bent on devouring its host, I'm developing my senses.
special one that doesn't gag. Burn, what the fuck was I thinking? 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 Love tears me up like a demon. Such good friends, I think that I'd hate you. If we weren't such good friends, I'd wish you were dead. Skillet on the stove, it's such a temptation. Maybe I'll be the lucky one that doesn't get burned. What the fuck was I thinking? What the fuck was I thinking? What the fuck was I thinking?
Revue de série télé, on présente Episodes ce soir.
Oui.
Alors quoi, c'est une petite touche anglaise, une petite touche californienne, on mélange le tout et puis on a une série.
Voilà, exactement, tu as bien résumé. Donc Episodes créé par, un créateur américain, David Crane, et un créateur anglais, Jeffrey Clarick, pour à la fois Showtime et BBC Two. Et on a dans les rôles principaux également des acteurs américains et des acteurs anglais, puisqu'on retrouve dans les rôles principaux Matt LeBlanc, qui était connu comme étant le Joey de Friends, et Stephen Mangan et Tamsin Drake dans les rôles des deux scénaristes anglais qui viennent s'installer à Hollywood, on va dire.
Voilà.
Okay. Alors, c'est une série qui a été créée en 2011 et qui, jusqu'à présent, nous a donc donné 3 saisons. Il s'agit d'une comédie, mais d'une comédie au format un petit peu nouveau, tel qu'on peut les voir depuis quelques années, c'est-à-dire 28 minutes à peu près. Et c'est ce que j'appellerais une comédie de mœurs, dans la mesure où, contrairement au sitcom où on joue beaucoup sur les jeux de mots et les situations un petit peu cocasses, ici, c'est pas la grosse poilade toutes les 5 secondes, c'est beaucoup plus calme. On prend le temps d'installer un paysage, des personnages, un univers, et puis au sein de cet univers, c'est vraiment les interactions entre les personnes, la manière dont les gens vivent et se comportent qui va provoquer la comédie. Voilà, je vous propose d'écouter l'extrait que j'ai choisi pour vous, qui est la première rencontre qui se passe entre les deux scénaristes anglais et le bureau américain qui se propose d'adapter leur série aux États-Unis, et on se retrouve juste après.
So, Lyman's Boys. Let's talk about casting.
Well, we already have Julian committed to recreate the role of Lyman, so that's half the battle right there.
We love Julian.
Comic god.
He's hilarious. We just need to find a time when he can fly over and audition for Merck.
Audition?
No one gets cast in anything without Merck seeing them first.
That's mad. Merck loves the show. Julian is the show. Why did he have to audition?
Yeah, there is a chance. Merck may not have actually seen your show.
What?
What?
I'm not saying that he hasn't seen it.
Has he seen it?
No.
Hang on, he told us he loved it. He said he wanted to have sex with it.
Well, if I had a nickel for everything Merck would have sex with, sight unseen...
She'd have a lot of nickels.
I'd be rich.
Voilà, on l'entend donc pour le couple anglais, l'arrivée en Californie et l'espoir de vivre leur rêve américain va tout de suite être confronté à pas mal de désillusions. Et une des premières désillusions à laquelle ils vont avoir à faire face, c'est le fait qu'alors que leur série est portée par un acteur qui manifestement est absolument central pour comprendre leur comédie en Angleterre, là ils vont leur imposer un acteur de seconde zone, c'est-à-dire Matt Leblanc, qui est directement présenté comme une sorte de has-been qui essaie de faire un retour à la télévision. Retour forcément qui ne sera pas extrêmement glorieux dans cette série-là, puisque très vite, tout le propos de la série originale anglaise va être totalement dénaturé par le milieu hollywoodien. Alors, on va passer à la critique et on commence par l'originalité. L'originalité, je l'ai dit, c'est une comédie de mœurs et c'est une comédie de mœurs sur le milieu hollywoodien. Alors, on a véritablement tous les clichés qu'on peut avoir sur ce milieu-là, c'est-à-dire le côté extrêmement hypocrite, le côté totalement superficiel et matérialiste, le côté très très branché sur un sexe sans lendemain et sans véritable intérêt, uniquement l'apparence qui compte, etc. Tout ça nous est donné de manière alors qui pourrait, ben justement parce que ça répond à nos clichés, ça pourrait paraître un peu caricatural, et en fait c'est montré de manière relativement fine malgré tout pour que ça passe, et ça a l'air assez réaliste malgré tout. Donc voilà, même si le but est quand même toujours de faire rire, donc on imagine qu'ils exagèrent un petit peu, mais on doit pas être loin du compte malgré tout. Alors l'univers c'est Hollywood, l'univers c'est l'univers de la création télévisée, et on nous montre véritablement le grand décalage qu'il peut y avoir entre une Angleterre où ce sont véritablement les créateurs qui sont à la manœuvre, et puis le milieu californien dans lequel ce sont les producteurs, ceux qui détiennent les cordon de la bourse, qui
les pépettes
qui eux véritablement décident de tout et dénaturent complètement le propos, l'intérêt, et au final vont jusqu'à détruire totalement l'intérêt de la série
original, oui.
pour finalement imposer un produit totalement insipide qui va rester une, deux, trois saisons et être lourdé sans que même personne ne s'en rende véritablement compte, quoi. Donc c'est plutôt désabusé malgré tout comme constat. Au niveau des personnages, on a Sean et Beverly qui sont donc les deux candidats d'anglais qui arrivent là dans le milieu de la télévision américaine, et leur regard nous permet véritablement de souligner toutes les outrances du système de la télévision américaine. On a de l'autre côté un Matt Leblanc qui montre véritablement tout le côté superficiel de ce milieu californien, et en même temps petit à petit, il arrive à montrer un côté un peu touchant. Il est totalement immergé dans cet univers superficiel, mais il en reste humain malgré tout, et on peut s'attacher d'autant plus à lui que l'on voit à quel point tout le monde finalement se retrouve un peu paumé dans ce milieu dans lequel rien n'a véritablement de sens ou de valeur, quoi. Mm-hmm. Voilà. Alors, au niveau de l'intrigue, on a la destruction progressive du couple, autant que du projet de création de la série. Et en même temps, on a également l'immersion progressive de ces deux personnages dans le milieu californien qu'ils vont finir par apprécier, parce que même si les personnages ont plein de défauts, même si les Américains, quelque part, c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, sont superficiels, matérialistes et plein de défauts, mais malgré tout, ils sont attachants, et malgré tout, les deux Anglais vont un petit peu se lier d'amitié avec les uns ou les autres. Alors, on a d'un côté tout le milieu créatif qui est très très critiqué, et de l'autre côté également leur couple qui en souffre énormément, mais dont on va assister à la tentative de rallumer la flamme autant qu'ils le peuvent malgré tout dans ce milieu où les tentations sont aussi assez nombreuses. Alors au niveau du propos, pour finir, on a un cynisme, véritablement. On a un constat extrêmement désabusé d'un système dans lequel, quelque part, personne ne peut véritablement faire quoi que ce soit. Et en même temps, une fois qu'on a fait ce constat, eh bien, on a peut-être la place pour autre chose. Et cette autre chose, ce serait la célébration d'un monde imparfait. Voilà. C'est vrai que c'est foutraque, ça ressemble à rien, ça détruit presque des âmes, et en même temps, malgré tout, ce sont des vrais humains qui sont là, avec des vrais sentiments derrière tout ça, et il y a moyen de s'y attacher quand même, quoi. Donc, je crois que c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver dans toutes les comédies de ce genre-là. Je pense notamment à VIP ou à Girls aussi. On a un milieu très superficiel qui détruit presque les rêves, et derrière tout ça, on a des vrais gens avec des vrais sentiments, et on finit quand même pas à s'accrocher à eux. Donc voilà, c'est vraiment une série que je recommande, parce qu'elle est drôle d'une part, parce que ça permet de retrouver Matt LeBlanc dans un rôle un petit peu différent et un petit peu plus profond que celui de Joey, et puis parce qu'il y a véritablement un propos derrière tout ça. Voilà.
Très bien, on dépeint là une société bien particulière, hein. Hollywood, ils sont quand même bien barges.
Ils sont carabinés.
En même temps,
oui.
Tu le dis, ils exagèrent certains points, mais je suis sûr que pour la plupart aussi, on est largement en dessous de certaines autres caricatures qui pourraient être dépeintes de ce microcosme hollywoodien.
C'est probable, oui. Quand on y pense, ça peut aussi très fort nous faire penser à Californication, par exemple.
Hein, voilà.
Dans le côté créatif, et à la fois, il y a une sorte de destruction des âmes quand on arrive là à L.A. qui est assez étonnante. Quoi.
L.A., pour l'avoir vue, oui, voilà. C'est pas vraiment ce qu'on vous montre toujours à la télévision. Il n'y a pas que Beverly Hills, en gros.
Voilà.
Et puis même, hein, tous ceux qui débarquent là avec leur valise, avec plein de rêves dans la tête, de faire carrière, bien souvent ça tombe bien plat.
Oui, ben là c'est le cas.
Oui, clairement. Allez, ben voilà, une chouette petite série à découvrir si ce n'est pas déjà fait pour vous. Et on va faire une petite pause musicale, évidemment.
Alors pour une fois, c'est pas une musique qui a été tirée de cette série, parce que justement il y a très peu de musique dans cette série.
Oui.
Donc j'ai choisi une musique tirée de Californication, puisque ça
y
avait un lien assez évident, surtout avec le titre ici, puisqu'il s'agit de Fuck You I'm Famous, chanté par Shooter Jennings et Hierophant.
On s'écoute ça.
Fuck you, I'm famous.
Get home and your wife kicks your ass.
Fuck you, I'm famous.
You're the hypocrite.
La machine à remonter le temps avec une série culte aujourd'hui. Une série qui s'est terminée trop tôt, qui a été jusqu'au bout sans nous décevoir. Dr. House.
Oui, Dr. House qui s'est terminée il y a 2 ans.
Mm-hmm.
Alors, je vais vous présenter un petit peu. Ça a été créé pour la Fox par David Shore. Et nous avons eu l'occasion de suivre les aventures du docteur de 2004 à 2012. Alors, on y retrouve dans les rôles principaux Hugh Laurie, évidemment, dans le rôle de House. Et à côté, autour de lui, nous avions Robert John Leonard, qui jouait son meilleur ami Wilson, Liza Edelstein.
Tu vas y arriver.
qui jouait la directrice de l'hôpital Cuddy. Et puis nous avions... alors, ça a changé, hein, mais au départ, en tout cas, Foreman, qui était joué par Omar Epps, Cameron, qui était joué par Jennifer Morrison, et Chase, par Peter Jacobson. Nous suivions donc les aventures d'un docteur un peu particulier à l'hôpital fictif de Princeton-Plainsboro, qui s'occupait des cas vraiment extrêmes dans lesquels aucun diagnostic n'avait pu être trouvé par les autres médecins, et donc il s'occupait de personnes qui étaient pour la plupart véritablement à l'acte de la mort. Ou en tout cas, à un moment de l'épisode, elle allait l'être. Hein. Et ce médecin était un peu particulier parce que, premièrement, il détestait le rapport avec les patients. Tout ce qui l'intéressait, c'était un petit peu le jeu de recherche de quel était le bon diagnostic pour le cas médical. Et puis, il lui-même manifestait à la fois énormément d'arrogance et de force, on va dire, dans le fait que il était particulièrement génial dans ses diagnostics, et en même temps une très grande faiblesse manifestée principalement par la canne, qui est un de ses accessoires bien connus, puisque suite à un problème de caillot dans la jambe, il a fallu lui amputé une partie du muscle, et depuis ce moment-là, il boite. En fonction des saisons et des moments dans les saisons, parfois il boite de plus en plus, et parfois au contraire, ils ont réussi à le guérir et il boite plus du tout. Mais bon, malgré tout, ça finit toujours par revenir, puisqu'on est dans une série véritablement qui joue sur le statu quo. On va avoir un Dr. House malgré tout assez similaire pendant les 8 saisons, avec une dépendance à différentes drogues, généralement la vicodine, donc à des fortes doses qui vont lui poser pas mal de problèmes. Je vous propose d'écouter un extrait dans lequel on entend que ses rapports avec notamment avec ses patients n'étaient pas toujours évidents. Et puis, je vous retrouve juste après pour vous donner 3 bonnes raisons de vous replonger dans cette série culte.
Addie, you're dying.
Are you sure?
Yes. Your infections mm-hmm. will get worse. The toxins will spill into your blood.
How long?
2 days. Maybe less. You have a condition called...
Doesn't matter.
It's a very rare protein deficiency that only manifests...
I don't want to hear it.
Okay. It's what's killing you. This is what's killing you. You're not interested in what's killing you?
Will that make any difference? Will I live any longer? Please, could you just leave?
What's the point of living without curiosity? Without craving the...
So... I'm screwing up my last few hours because I won't listen to you.
Get out of here.
Voilà, vous l'entendez donc. Alors, pour le Dr House, la recherche de la vérité, ou en tout cas de la solution, c'est véritablement quelque chose de très important. Et on entend qu'il comprend absolument pas comment une patiente peut choisir de ne pas savoir pour quelle raison elle va mourir. Elle s'en fout. Tout ce qui compte, c'est le résultat. Pour lui, c'est véritablement incompréhensible. Alors, les trois arguments pour lesquels je pense que c'est vraiment intéressant de regarder Dr. House, c'est pour une première part, mais House lui-même, hein, c'est véritablement le centre de toute la série, c'est le personnage charismatique par excellence, absolument magnifique dans son génie et à la fois, je l'ai dit, d'une très grande fragilité personnelle, d'une très grande fragilité morale aussi. On va suivre ce personnage qui, normalement, si c'était une personne dans la vie réelle, nous serait totalement accessible, autant dans son génie que dans sa souffrance, parce que c'est quelqu'un qui se rend totalement inaccessible et incompréhensible. Il fait tout pour qu'on ne l'approche pas de trop près. Et là, grâce à la série, quelque part, on a l'occasion de suivre ce personnage un petit peu particulier, même si on n'arrive jamais véritablement à comprendre ce qui se passe totalement derrière ces facéties. On peut aussi noter que le personnage de House a très fort été inspiré par un autre personnage mythique qui est celui de Sherlock Holmes. Et on comprend là pourquoi la recherche de la vérité est si importante pour lui. On a véritablement une série médicale qui se présente comme une enquête, presque comme une enquête policière.
Oui.
Voilà. Deuxième argument pour regarder cette série, c'est les très très nombreuses réflexions que l'on va pouvoir y trouver dans chaque épisode sur l'éthique, sur la vérité, sur l'authenticité, le rapport aux autres. Chaque nouveau cas et chaque nouveau personnage est véritablement l'occasion pour le Dr. House d'apporter des réflexions nouvelles, de s'interroger, et pour également tout son entourage de s'interroger sur ce qui compte le plus. Est-ce que c'est davantage le service aux autres et le rapport humain, ou bien au contraire la recherche un peu froide et déshumanisée de la vérité. Enfin, troisième raison, nous avons ici, avec cette série, une étape majeure dans l'histoire des séries médicales. Alors, en grande partie parce que c'est une série qui a eu un succès immense, hein, ça a été la série à un moment la plus regardée au monde, mais aussi parce que, je l'ai dit, elle a véritablement une forme très particulière qui est, par exemple, très différente de la forme que pouvait avoir une série comme Urgence. Donc, on a une étape dans les séries médicales. Voilà. La série médicale comme enquête policière, ça avait encore jamais véritablement été proposé. Et là, c'était véritablement une idée originale de la part de David Shore. L'importance est vraiment donnée au cas ici et au cas médical, et c'est donc pas si étonnant de ça. Si, même si évidemment cette série a été aussi critiquée sur le fait qu'elle était un peu irréaliste, ou bien sur le fait qu'au final c'était toujours un lupus.
Voilà, j'avais envie de la placer celle-là. Il y avait quand même beaucoup, une sorte de répétition malgré tout dans le modus operandi, mais on a vu la série évoluer quand même sur une série à épisodes qui s'enchaînaient. On vivait avec les personnages aussi en dehors des différents cas qu'on voyait à chaque épisode.
Il y a aussi eu des éléments en effet feuilletonnants qui ont été apportés petit à petit à la série, mais ce que je voulais dire au niveau des cas, c'est que on a tous plus ou moins entendu l'histoire de l'un ou l'autre médecin qui a trouvé la solution à un cas qui se présentait à lui parce que ça lui rappelait un épisode de Dr. House. Eh bien, le fait que ça se concentre véritablement sur ces énigmes médicales, a probablement permis ce genre de petite histoire d'arriver aussi. Et contrairement à d'autres séries médicales qui s'intéressent plus au fonctionnement de l'hôpital dans son ensemble, ici, soyons clairs, au niveau du fonctionnement de l'hôpital, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste. Hein.
De classique.
Si véritablement le Dr House ne faisait que ce qu'il fait dans la série, il serait véritablement pas rentable du tout. Et on comprend pourquoi Cuddy le poursuit continuellement de ses foudres. Hein. Mais là, il s'agit pas d'être réaliste, il s'agit véritablement d'un divertissement, mais d'un très bon divertissement parce que qui soulève sans arrêt des questions très pertinentes sur le rapport aux autres, sur l'éthique et sur qu'est-ce que c'est de rester véritablement soi-même dans un milieu où on nous demande constamment de faire attention aux autres, d'être dans une éthique de l'attention et du service aux autres. Et là, on a Dr. House qui va totalement à l'encontre de cette éthique-là. Donc, c'est aussi intéressant pour ça.
Quel flot de bonnes paroles, Aurore. On sent que tu as aimé le personnage, aimé la série.
Ah, mais moi, ça aurait continué 20 ans. J'aurais toujours été aussi inconditionnel du Dr. House. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça répétitif, mais en même temps, c'est un petit peu le principe d'une série. Enfin, pour moi, ça n'est pas du tout un mal pour une série d'être répétitif. Hein. Donc voilà.
Bien. Ok, ben tu nous l'as vendue. En même temps, elle s'est très bien vendue toute seule.
Oui.
Là, tout le monde la connaît. Vous savez pertinemment bien où la retrouver, en DVD en tout cas, dans de très bons magasins spécialisés. Bon. La musique.
Oui.
Et puis on se dit au revoir. Alors, on a du Michael Penn.
On a Michael Penn qui nous chante Walter Reed et ça a été tiré de Dr. House.
À tout de suite.
The same routine. I'm ranting while I'm raving. There's nothing here worth saving. Tell me now, what more do you need? Take me to Walter Reed tonight. Baby, I've lost the will for fighting over everything. Well, there's a few things I gotta say. Make no mistake, I'm say, make no mistake, I'm mad. 'Cause every good thing I had abandoned me, a sad and lonesome me, a sad.
Et bien voilà, une nouvelle fois, un épisode de Sarifolie rondement mené, le 15e déjà, qui se termine. On se dit au revoir, Aurore.
Oui, au revoir.
On a encore passé un bon moment ensemble, je trouve. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, avec de nouvelles séries à découvrir ou redécouvrir. Que dire ? Bah, qu'on se retrouve également sur les réseaux sociaux, sur Internet, notamment sur la page Facebook de l'émission, le www.facebook.com/sarifolie.be. Sarifolie en un mot, avec un S à série.
Voilà.
Vous y retrouverez certainement dans quelques minutes maintenant le lien vers le podcast de cette émission.
Oui, et on est aussi sur Twitter à @sarifolie. Toujours avec S à série.
Waouh, on est sur Twitter.
Waouh.
À la pointe du progrès. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et à très bientôt. Bye bye. Mix FM.